Unit existe depuis 2003. C'est un groupe qui s'est monté sur commande en fait de la part du CRDJ en Pays-de-Loire. Voilà, c'était une commande qui était en fait c'était une double commande. Il y avait une première partie de la commande qui était destinée à des actions pédagogiques qu'on menait avec Mathieu Donarier en duo. Donc on avait fait tout un programme de rencontres avec des scolaires. Et puis il y avait aussi dans cette commande la composition d'un. Enfin, une création en tout cas. Donc j'ai utilisé cette opportunité pour constituer ce groupe qui était pour moi plus qu'une commande de création. C'était vraiment l'occasion de mettre sur pied un groupe que j'avais imaginé dès le départ comme un point de rencontre de musiciens que j'avais croisés en Europe lors de diverses expériences. C'est pour ça que la première mouture du groupe était constituée de Gabor Gado, avec lesquels on travaille avec Mathieu depuis déjà un bon moment. Donc Gabor jouait à la guitare, et puis à la batterie, il y avait Stéphane Passborg, qui est un batteur danois. Donc ça, c'était là avec Mathieu Donarier et Laurent Plondiot, qui vit à Bruxelles, et que j'avais rencontré au sein du groupe Max Spirit. Donc voilà, c'était tout de suite, c'était pour moi l'occasion de monter un groupe un petit peu européen. Collectif. On pourra y revenir d'ailleurs, mais il y a aussi le fait que le terme collectif débouche tout de suite sur ma participation au sein de Yoke et puis au sein d'un projet plus spécifique qu'on a porté avec Yoke depuis longtemps qui s'appelle Zoom, qui est une réunion de collectif. Et il se trouve que à cette époque-là, Laurent faisait partie de ce projet Zoom par l'intermédiaire de Max Spirit. Et puis les connexions avec la Finlande se sont faites aussi via le label Fiasco. Donc voilà, pour moi la conception du groupe c'est vraiment une chose collective. Et ensuite j'avais pas le désir de mettre mon nom spécialement en avant parce que je trouve ça juste pas très joli. Sébastien Boisseau Quartet. Unit me semblait être. J'aime bien cette notion d'unité. C'est aussi. C'est aussi ça qu'on projette quand on joue la musique ensemble sur scène. C'est une espèce de son homogène qui sort du groupe. Et c'est vrai que c'est plus tard en fait que je me suis fait cette réflexion que c'était un terme utilisé par d'autres musiciens. Je trouvais que c'était un terme suffisamment fédérateur pour bien représenter l'esprit de ce que j'avais envie de mettre sur pied. Unit aujourd'hui, c'est Mika Kallio à la batterie, qui est un batteur finlandais qui habite à Kuusankoski, petite ville en Finlande. C'est l'endroit où on a enregistré le disque également. Laurent Blondiot, trompettiste belge, qui joue notamment dans le groupe Max Spirit, dans le Mega Octet, dans Diemler aussi, qui joue aussi dans le Gros Cube d'Alban d'Arche. Mathieu Donarier, au saxophone et aux clarinettes, avec lequel j'ai partagé pas mal d'expériences aussi depuis de nombreuses années, que ce soit avec Gabor, avec le Gros Cube, avec plein d'autres groupes en fait. On s'est croisé très tôt avec Mathieu. Donc ça c'est le quartet de base, et puis moi à la contrebasse. C'est le quartet de base et moi j'aime cette idée de pouvoir fonctionner avec soit le quartet, c'est un peu le concert qu'on va faire ce soir, c'est même complètement le concert qu'on va faire ce soir, soit en invitant des gens. C'est pourquoi sur le disque et pendant la tournée qu'on a faite en 2008, au moment de l'enregistrement du disque, on a joué toute la tournée avec Veli Kujala, qui est un accordéoniste finlandais aussi. Et il n'est pas du tout impossible que dans un futur proche, on fonctionne avec un autre invité. Donc j'aime bien cette idée qu'on puisse avoir le noyau de Unit et qu'on puisse accueillir, comme c'est une formule sans instrument harmonique par exemple, ça nous laisse la liberté de pouvoir inviter un accordéoniste, un pianiste, un guitariste, Donc on peut comme ça changer complètement la couleur. Pour nous, ça rafraîchit aussi, ça ramène d'autres couleurs, donc c'est aussi intéressant pour le groupe. Ce sont tous de très très bons musiciens. Donc là-dessus, il n'y a pas photo pour moi. Il n'y a pas la dimension humaine est très importante. Le fait de pouvoir vivre ensemble pendant des tournées. Et puis ce que le son de chacun génère chez moi aussi. C'est aussi humain pour moi, c'est pas juste un rapport professionnel. La façon de fonctionner en groupe, la façon de travailler ensemble, l'écoute qu'il peut y avoir au sein du groupe, l'écoute aux propositions qui sont faites par chacun. C'est pour ça aussi que je mets pas mon nom en avant, c'est parce que j'ai pas envie de diriger et d'imposer ma conception de la musique. Ma conception de ce groupe, c'est justement un système ouvert dans lequel chacun a une place qui vaut. Et chacun a une voix qui vaut autant que la mienne, en fait. Donc moi, je censure rien, je décide, je n'impose rien, on discute, chacun est libre de faire des propositions et on fait notre chemin comme ça. Donc forcément, on ne peut pas faire ça avec tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être dirigés, qui ne fonctionnent pas bien sans ça. Il y en a qui ont besoin de diriger. Quand on en a deux comme ça dans un groupe, ça peut être problématique, par exemple. Donc voilà, là, on est arrivé à un point du groupe où il y a une très très bonne entente, une très bonne compréhension et des idées à chaque fois neuves qui sont apportées de par les expériences différentes qu'on a, parce qu'on se voit peu. On vit tous dans des pays, dans d'autres pays, donc on se croise de manière cyclique au sein de différentes formations, mais ça reste assez sporadique en fait. Donc chacun peut s'enrichir de nouvelles expériences qu'on peut mettre dans le pot commun à chaque fois qu'on se revoit. Au moment où on a constitué le groupe, et c'est encore plus le cas actuellement, j'avais une référence de son dans l'oreille que j'adore, qui est le son du groupe Old and New Dreams, qui est un groupe formé de gens très connus. Peut-être que le nom du groupe est moins connu, mais c'est Charlie Haddon à la contrebasse, c'est Blackwell à la batterie, Don Cherry et The Weird Man. Donc c'est exactement cette formule, trompette, ténor, contrebasse, batterie. Et c'est vrai que j'ai pas cherché avec ce groupe à faire une proposition de son absolument novatrice. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de choisir des musiciens que j'admire pour leur talent d'improvisateur, le son qu'ils développent. Et je les ai tous croisés dans des formations où on avait beaucoup de musique écrite à lire et à jouer. Donc des musiques, même si elles laissent de la place à de l'improvisation, qui sont toujours cadrées et encerclées par une architecture assez écrite, en fait. Et j'avais presque une frustration de pouvoir les entendre juste jouer, parce que je sais à quel point, quand on lâche des musiciens comme ça, quand on leur demande juste de se focaliser sur le jouage, sur leur envie de jouer, je sais à quel point ça peut être riche. C'est pour ça que ce groupe, je voulais un petit peu, enfin, des morceaux assez simples qui puissent mettre en valeur vraiment les capacités d'interprète, les capacités interactives de chaque musicien et leur jouage. J'avais envie que les gens entendent ça, en fait. Plus que des compositions, parce que moi, je me considère pas comme un compositeur chevronné. C'est pas, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est pas là-dessus que j'ai focalisé mon travail. Par contre, construire dans l'instant, une musique dans l'instant, c'est tout à fait possible avec eux, y compris lui donner une structure, et ça permet justement de les entendre s'exprimer complètement librement. Je crois que l'instant, la façon de gérer l'instant, l'énergie qu'on a chacun, c'est déjà une manière d'envoyer le son, de poser le son, ce qui, effectivement, ça fait une drôle de maison, en fait, toute cette architecture-là, parce que ça fait une maison qui serait presque pas réalisable aujourd'hui, en fait. Enfin, qui serait pas fonctionnelle en termes d'architecture. Effectivement, il y a plein de portes qui s'ouvrent en permanence, parfois des portes qui restent complètement ouvertes. Mais Elle se construit comme ça, dans le temps, dans la gestion du temps, puisque c'est un peu ça notre, la matière qu'on travaille, nous. C'est le silence et le temps. Et c'est comment on agence les sons par rapport à ces deux données-là, le temps qui passe et la base qui est le silence. C'est un peu notre page blanche. Voilà. Donc on construit vachement là-dessus. C'est pareil, on fixe pas forcément d'ordre de morceaux. On se laisse la possibilité, en tout cas, de pouvoir interchanger des positions de morceaux parce que ce qu'on viendra de jouer permet justement de déboucher sur un univers qui n'est pas forcément celui qu'on avait prévu une heure avant de commencer le concert. Et c'est accepter cette non-négation de l'instant. Ce qui peut être le cas quand on fait un ordre de une setlist pendant un concert où on se dit tiens on va jouer tel morceau en première position, tel autre morceau en deuxième position. Là on a cette liberté là de pouvoir modifier ça d'une manière très simple en fait. C'est un petit peu des exercices de trapéziste, effectivement. Mmh. Il y a des points de rencontre, il y a des moments où il faut sauter au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing pour pouvoir s'accrocher en même temps à la barre. Et il y a d'autres moments où on peut évoluer avec beaucoup plus de liberté. Et je pense que quand on regarde voilà, un jeu de trapéziste, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe. C'est que ce soit les moments qui sont synchro, que les moments où les gens s'écartent. Quoi. Et ça élargit le champ. Justement, je crois qu'on vit aujourd'hui une période où la musique, elle est, en tout cas celle qu'on nous donne à entendre le plus souvent, elle est vachement formatée. Elle est, moi, ça me conforte dans mon envie toujours de continuer à travailler avec un champ très ouvert. Qu'on puisse décloisonner un petit peu la fonction de chacun. C'est-à-dire que la basse, elle n'a pas forcément fonction à assumer que la pulsation dans un orchestre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris cette musique-là et c'est ça que j'ai envie de développer dans ma manière de jouer. Je suis un fan complet de la fonction du bassiste. Hein. J'éprouve beaucoup de plaisir et en même temps, j'ai besoin aussi de pouvoir endosser un autre rôle, de tracer un autre chemin qui soit un petit peu indépendant de cette fonction, quoi. Qui ne se conçoit pas que dans le carcan de la fonction. Et je pense que justement, c'est un bon exemple, ce groupe-là est un bon exemple. Chacun a cette démarche-là. Et c'est pas possible avec tout le monde. C'est pour ça que la façon de composer un groupe, ça peut pas se faire que sur de la renommée des gens, que sur leur capacité technique à jouer d'un instrument. Ça doit, quand on prend autant de risques, il faut qu'on soit en confiance aussi. Il faut qu'on sache qu'il n'y a pas de problème à avoir cette attitude-là, et que ça ne va pas créer de tension au sein du groupe, ou que si les tensions sonores arrivent, elles ont un but, une finalité. C'est un jeu pour nous d'en créer des tensions, de détendre et de tendre. Quant au disque, la musique qu'on entend sur le disque, effectivement, il y a une espèce d'élasticité du temps, en fait. Moi, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Je pense que tout le monde a cette sensation-là. On a l'impression que ce qu'on a vécu la semaine dernière, c'était il y a très très longtemps. Et en même temps, on a des souvenirs très proches de moments qu'on a passés il y a un an ou deux ans et qui nous paraissent comme hier, voire il y a 10 ans. Donc il y a des moments où le temps est complètement élastique en fait. Et je trouve ça assez fascinant. Ouais. Et j'aime bien perdre cette notion du temps au moment où on est en train de jouer. J'aime bien que les choses s'étirent sur des longueurs. À partir du moment où il se passe de la vie à l'intérieur de tout ça, on peut aller vraiment chercher dans le détail, y compris dans des phases très énergiques de jeu, de jouer sur cette longueur de tension, ou alors sur des moments très 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 brefs. tout ça, ça permet d'augmenter le champ de la palette de dynamique, en fait. Moi, c'est ce que je trouve riche et intéressant. Ça nécessite de la concentration pour les gens qui écoutent. Et ça, c'est sûr que... Moi, je suis assez exigeant là-dessus. Je suis exigeant vis-à-vis du public. Et j'aime cette idée de l'exigence vis-à-vis du public. Nous, on l'est extrêmement vis-à-vis du son qu'on développe pendant des années et des années, de notre façon de nous placer pour émettre un son. Et je pense que c'est important que le public ait cette exigence, cette concentration, cette... Alors, est-ce que c'est un défaut pour la musique de jazz qui a des origines populaires et qui cherche son public en ce moment? C'est un grand débat, ça. Moi, je ne raisonne pas en termes de musique difficile d'accès. Je crois qu'il y a plein de formes d'art qui sont a priori plus difficiles que la musique qu'on joue et qui rencontre un large public. Il n'y a qu'à voir... Il y a juste à constater les films qui sont primés au Festival de Cannes, par exemple, juste pour prendre un exemple très grand public, enfin très médiatisé, ce sont pas des films non plus tout public, quoi. Mmh. Quand c'est les frères Dardenne qui remportent une Palme d'Or, on peut pas dire que ce soit un blockbuster américain. Ce sont des films qui sont vus, chronique sociale en Belgique. C'est pas une histoire de Roméo et Juliette, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même une grande partie des gens qui s'intéressent à qui ont une exigence, qui vont écouter des œuvres, regarder un film. Et moi, je continue à avoir confiance dans ce public-là. Pour moi, le principal dans cette musique, c'est la scène. C'est parce que je sais à quel point des gens qui pensent ne pas pouvoir apprécier cette musique-là, qui s'en font une idée de quelque chose de très conceptuel ou très intellectuel ou très, trop savant, qui n'ont pas les clés pour... Je sais qu'à partir du moment où ils se trouvent dans la salle de concert, à une distance suffisamment proche de ce qui se passe avec les musiciens, la plupart sont vraiment étonnés de ce qu'ils vivent. Combien de fois j'ai vu des gens, voire des amis que j'avais invités, qui pensaient s'ennuyer peut-être un petit peu pendant un concert et qui sont sortis vraiment surpris d'avoir voyagé autant et d'avoir découvert ce qui pouvait se passer, même s'ils comprennent, s'ils n'ont pas une capacité d'analyse. Mais ça, c'est pas ce qu'on demande aux gens. Enfin, moi, c'est pas ce que je demande à un public, d'analyser la musique. Je lui demande juste de la recevoir. Mais même pas de l'aimer. Hein. Ça m'intéresse pas forcément que tout le monde aime la musique. Mais juste d'être en capacité à recevoir les choses. C'est ça que je trouve le plus intéressant dans le rapport entre la scène et le public. Et effectivement, être au concert, ça permet de voir les échanges qu'il y a entre les musiciens, de sentir les vibrations vraiment, les différences de dynamique, à quel point on peut jouer à très faible niveau, entendre le grain des instruments, à quel point on peut envoyer de l'énergie aussi. Comprendre ce qui se passe dans les regards des musiciens, comprendre aussi que justement l'improvisation, c'est pas faire n'importe quoi, mais c'est vraiment gérer un maximum de paramètres dans un temps précis, de pouvoir saisir la concentration de chacun, le discours de chacun, le développement des idées de chacun, de pouvoir les entendre et continuer à improviser avec et continuer à tricoter quelque chose qui va se tenir en fait. Et ça, je pense que sans capacité d'analyse, c'est complètement possible quand on est sur scène, quand on est au concert. Ce qui est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas cette musique, juste à l'écoute d'un disque. En général, je déconseille d'écouter ce genre de musique-là sans être allé au concert. Et tout comme je pense qu'on ne peut pas se représenter la beauté d'un tableau sur une carte postale.
C'est plat.
Ouais, c'est ça. Il manque une profondeur, il manque... Il manque tous les paramètres de lumière, de... Je sais pas, regarder du théâtre, regarder une pièce de théâtre à la télé avant d'aller la voir, ça me paraît pas possible. En tout cas, ça me paraît être source de perte d'informations énorme. Donc du coup, je trouve ça assez normal que la plupart des gens puissent passer à côté de cette musique-là. Il y a de moins en moins de lieux pour diffuser ça, il y a de moins en moins de canaux, que ce soit la radio ou la télé, où on diffuse cette musique. Donc, pour moi, les problèmes, ils viennent plutôt de là. Je pense pas qu'il y ait un problème avec le public. Yoke et Fiasco sont en lien depuis quelques années via le projet Zoom, qui était à l'origine une double compilation de labels européens qui fonctionnent sur le même type que Yoke. Yoke a fait cette recherche-là il y a quelques années de voir un petit peu ce qui se passait autour des contacts qu'on avait chaque musicien personnellement, d'avoir joué dans tel groupe, dans tel pays, avec tel autre groupe, dans tel autre pays. Et on s'est finalement rendu compte qu'on avait des affinités particulières avec certains musiciens, pas que musicales justement, mais des affinités de raisonnement par rapport au milieu dans lequel on évolue, de philosophie, de développement de musique, de tout champ musical dans sa globalité en fait. Et on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux étaient déjà investis dans des démarches collectives et qu'en général ces collectifs avaient un label vitrine. Donc voilà, on a sorti cette première double compilation sur laquelle le Fiasco était déjà présent. Et moi j'ai voulu aller plus loin, je me suis dit si je enregistre avec des musiciens finlandais qui travaillent avec Fiasco, qu'on enregistre le disque pendant une tournée en Finlande, qu'on le fait dans un studio en Finlande, je vois pas pourquoi on ferait pas le même disque et qu'on met les deux tampons de chaque label, et voilà, ça permet au groupe de pouvoir communiquer en Finlande et en France. C'est une manière de mutualiser nos efforts en fait. Moi, ça donne une matière concrète au projet Zoom aussi. C'est pas uniquement des rencontres entre musiciens, ça permet d'aller plus loin à un autre stade. Et puis, ça permet au public de chaque pays d'écouter des musiciens finlandais, au public finlandais d'écouter des musiciens français. C'est ouvrir des portes d'accès là. C'est un petit peu dans cette démarche là qu'on a fait ça. Avec l'idée aussi de mutualiser des moyens dans une économie du disque. Qui est une toute petite économie, donc c'est plus intéressant de faire ça plutôt que de sortir un disque sur un label puis un autre disque sur un autre label avec le même groupe. Je trouvais ça plus intelligent, et comme on n'était qu'entre musiciens à prendre la décision, ça s'est vite réglé. Le jazz, il est inscrit dans le territoire européen depuis de nombreuses années. Là, ce qui est peut-être ce qui a pu exister dans le passé parfois, mais qui change un petit peu, c'est que il y a toute une génération de gens qui ont dû, par nécessité, se créer des outils. Donc voilà, nous, on a continué de se focaliser sur les gens qui avaient déjà fait la preuve qu'ils pouvaient travailler avec d'autres. C'est-à-dire quand on s'adresse à un collectif qui gère un label, on sait très bien que c'est déjà plusieurs personnes qui travaillent ensemble depuis un petit moment, parce que monter un label, ça prend du temps. Donc c'est déjà, si cette cellule-là existe dans un pays, en Europe, pour nous c'est déjà la preuve qu'ils savent travailler à plusieurs. Ça veut dire qu'il y a déjà tous les éléments possibles pour continuer à construire quelque chose de collectif entre structures européennes, en travaillant tous ensemble dans une synergie. Ouais. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très particulier, c'est cette volonté de mutualiser le plus possible, de pouvoir développer des outils qui servent à tout le monde. L'exemple du double label pour le CD d'Unit, je pense que ça va faire des petits. Je suis déjà au courant de projets qui existent sur entre des Hollandais, des Français. Je pense qu'on a intérêt à construire des liens forts comme ça, qui décloisonnent des enjeux nationaux. La France est un petit... Le milieu du jazz français a cette capacité à pouvoir fonctionner avec lui-même. C'est-à-dire que le territoire est suffisamment grand, le maillage de salles de diffusion, même si, je le répète, il a reçu beaucoup de coups de butoir et que c'est difficile en ce moment. Il n'empêche que comparé à plein d'autres pays en Europe, en France, on peut ne jouer qu'en France, quasiment. Donc moi, je trouve ça vachement intéressant pour nous d'ouvrir le champ et de continuer à être ouvert à ce qui se passe ailleurs et dans d'autres pays, en fait. Donc voilà, il y a cette volonté de rester ouvert, il y a cette volonté de mutualiser des outils, puisque chacun, on s'est créé les nôtres par nécessité, des outils de communication, par exemple. On a des mailing lists chez Yoak. On a un réseau de gens qui nous connaissent, de public qui veut recevoir nos nouvelles, un réseau de journalistes qui nous suivent, qui sont intéressés par ce qu'on fait. Donc là, on en est au stade où on va offrir ce réseau, l'accès à ce réseau à d'autres labels avec lesquels on travaille. Et on va essayer de construire une sorte de base de données commune. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'on sortira une production d'un label, on pourra informer tout de suite tout un maillage en Europe. C'est ça qui va nous permettre, je pense, au futur, de rester réellement indépendants. Parce que ces aventures-là sont toutes super fragiles. Elles sont gérées par des musiciens dont l'activité première est normalement de jouer de la musique. Et que dès qu'on veut rentrer dans un autre système que le système indépendant, ça exige des capacités structurelles qui, bien souvent, dépassent nos compétences de musiciens. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer des équipes. Et en plus de ça, ça prend énormément de temps. Donc le risque là-dedans, c'est qu'on se coupe du champ musical à proprement parler. C'est que ça puisse devenir un frein à notre évolution musicale. Donc il y a plutôt cette envie de construire les outils les plus performants possibles qui nous permettent de rester, de garder le contrôle sur un accès au public, parce que le disque pour ça c'est nous, pour nous c'est ça. Et de rester à notre place de musicien en même temps. Donc on échange entre musiciens, on construit les choses entre musiciens, et on essaie d'ouvrir ça à toutes les niches de public qu'on peut trouver en Europe. Je ne sais pas si un jour ça déboulera sur une sorte de label Zoom qui sera peut-être une vraie entité à proprement parler, qui pourra devenir un label global, comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça ira, mais je crois qu'on en a besoin, tout simplement, aujourd'hui. On a cette chance de pouvoir tenter les choses, puisqu'on ne s'inscrit pas dans une logique de rentabilité du tout. On sait très bien qu'on produit des disques, les musiciens payent leurs disques, ils les produisent eux-mêmes. Toutes ces expériences sont des fédérations d'autoproduction, en fait. Donc, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. On fait ça pour rendre disponible, pour archiver, pour le son, pour l'objet aussi. Donc, on n'a pas de limite à tout ce qu'on pourra mettre en œuvre, tout ce qu'on pourra essayer pour que ça continue à créer de l'émulation entre nous, à impulser des rencontres et à offrir des opportunités au public de découvrir des choses. C'est ça vraiment nous, ce sont nos objectifs et c'est ça qui nous intéresse. Le côté, la rentabilité, gagner de l'argent avec ça, moi j'ai rien contre, hein, mais faudrait qu'on s'occupe de tout à ma place. Et généralement, quand ces choses-là arrivent, on s'occupe de tout à notre place, y compris de la musique. Et ça, pour moi, c'est pas possible. On a cette chance de pouvoir se rencontrer, de ne pas se connaître et de pouvoir jouer ensemble. Donc on en profite au maximum, en fait, avec tout ce que ça nous apporte. Et puis parfois, il y a des rencontres qui font vraiment tilt, qui deviennent des vraies rencontres de long terme. Unit, c'est ça. C'est que des rencontres qui se sont faites sommairement au début, et puis c'est des gens qui restent ensemble, qui parfois se connaissent depuis 10 ans. Que ce soit Laurent Blondiot ou Mathieu Donnarier, ce sont des personnes avec lesquelles je travaille depuis vraiment des années et avec lesquelles je reste parce que il y a vraiment quelque chose d'humain et de musical. Il y a une espèce de fusion entre les deux qui s'est passée, donc c'est des gens auxquels je suis vraiment attaché. Et Mika, c'est une rencontre récente, mais je sais que c'est quelqu'un avec lequel je vais travailler pendant des années, c'est sûr et certain. Et c'est extraordinaire de pouvoir vivre de cette manière-là, d'avoir cette chance-là. Donc, moi, m'enfermer dans un système de plus en plus industrialisé dans son concept de marché de disques, de promotion, marketing, de belles photos, et de même si j'aime la belle photo, hein. Mais de tout passer par le filtre de la rentabilité, c'est-à-dire même de penser en termes de logique de produit avant de penser d'avoir une pensée, une logique d'œuvre, de pouvoir concevoir un album ou un groupe en se disant c'est ce groupe-là qu'il faut que je monte parce que je sais que c'est celui-là qui va tourner le mieux parce qu'il y a telle ou telle personne et que du coup cet album-là on va le faire à tel moment avec cette pochette-là, sur ce label-là qui a cette distribution-là parce que c'est ça qui va bénéficier de plus. Je pense pas que ce soit la meilleure chose pour cette musique-là. Et je constate simplement que ça se fait de plus en plus comme ça. Et quand j'ouvre les journaux, ou simplement si je demande à n'importe quelle personne dans la rue de me citer des musiciens de jazz aujourd'hui, je pense que le constat est évident. On va avoir des gens qui sont marketés jazz, entre guillemets, stickés jazz, qui vont être vendus sous l'appellation, mais qui ne font pas de jazz. Mmh. Donc il y a un leurre vis-à-vis du public. Donc on peut pas s'étonner après que la musique soit complètement déroutée vis-à-vis de gens qui essayent de véhiculer, de toujours travailler sur l'esprit du jazz. Sur cette envie de prendre des risques, sur ce besoin de prendre des risques, sur ce besoin de ne pas se répéter, sur cette capacité à gérer l'instant, y compris l'imprévu. Et donc du coup, c'est pour toute cette mise en danger sert à ça. Mmh. Donc on est vraiment loin on est loin des directions qu'on nous flèche avec des grosses pancartes lumineuses en nous disant c'est comme ça qu'il faut travailler, sinon vous n'y arriverez pas. Nous, on a fait notre choix. Il se trouve que quand on organise des choses avec des musiciens européens, quand on les fait venir au Panonica, il y a toujours du monde. Le club est plein, et les gens sont ravis de découvrir d'autres personnes, une autre musique. Donc, je pense pas que jusqu'ici, on a eu tort d'avoir cette démarche. Et de rester proche de la philosophie de cette musique. Pour moi, c'est plus, même si les choses sont plus forcément comparables, parce qu'il y a un contexte social, il y a ce qu'on appelait jazz, enfin, historiquement, les choses ont tellement évolué. Et sans non plus centrer la chose sur une activité en Europe, par rapport à l'opposé à ce qui se passe aux États-Unis, mais il y a aussi un background, un héritage musical européen. Et on en est tous marqués. Je veux dire, tous les gens qui ont grandi dans les pays européens sont empreints de leur culture, de leur propre culture, de la culture de leur continent. Donc je pense que l'héritage musical en Europe n'est pas le même que l'héritage musical en Amérique. Donc il y a des différences, mais c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse revenir au futur à plus d'échanges, plus de connexions entre les musiciens européens et américains, par exemple. Ce qui a eu lieu à une époque, ce qui a eu lieu à l'époque de Saint-Germain, l'époque de Daniel Huber, à l'époque de tous ces gens-là, les musiciens travaillaient ensemble, les musiciens se côtoyaient, les clubs étaient là pour ça, et permettaient ce lieu d'échange, de rencontre très facile. C'est devenu complètement cloisonné maintenant, enfin, beaucoup plus étanche. Donc moi, j'espère que c'est un pied pour moi, ce réseau européen, c'est encore juste une étape pour aller plus loin dans tisser des passerelles, tisser des échanges, enfin des ponts, et ça va forcément venir. Thank you.
Mmh.